Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Première rencontre Trump-Poutine cet après-midi en marge du G20 qui s'est ouvert ce matin à Hambourg. Nous serons en ligne avec Cyril Graziani, commentaire de Marie-Pierre Véraud. Dans le nord de Paris, près de 2800 migrants évacués ce matin des camps où il s'était installé près de la porte de la chapelle, suivi avec Catherine Dutu. La situation judiciaire de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à nouveau fragilisée. Information judiciaire ouverte ce matin pour favoritisme, complicité et recel dans l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. Précision avec Nathanaël Charbonnier. Le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes formule ce matin 21 recommandations pour améliorer l'accès aux soins de santé des femmes en situation de précarité notamment. Compte rendu d'Aurélie Kiffer, l'invité de la séquence interview, Karima Delli, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Ce sera donc leur première rencontre cet après-midi, 15h30. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine pourront pour la première fois donc se jauger en personne lors de cette rencontre qui est sans doute la plus attendue du sommet du G20 qui s'est ouvert à Hambourg. Première poignée de main d'ailleurs entre les deux hommes ce matin à l'occasion de la première séance de travail qui a été consacrée à la lutte contre le terrorisme et son financement. C'est un thème qui fait globalement consensus entre les représentants des 19 pays les plus riches de la planète, plus et de l'Union européenne. Et contrairement, Cyril Graziani a des thèmes qui vont être abordés un peu plus tard dans la journée.
Oui, ce sommet s'annonce comme l'un des plus conflictuels de ces dernières années. L'épicentre de ces crispations, c'est Donald Trump, avec deux sujets épineux, commerce et climat. Sur la question du climat d'abord, les Européens veulent mener un front commun et Emmanuel Macron souhaite, je cite, « ramener à la raison Trump, rien de moins ». Le sujet climat-énergie est le moins consensuel, on ne sait pas comment ça va se terminer, reconnaît même un haut diplomate français. Selon d'autres sources diplomatiques, les États-Unis feraient notamment pression pour que les carburants fossiles soient mentionnés comme une alternative viable aux sources d'énergie propre, hors de question pour les Européens. L'autre dossier sensible, je vous le disais, c'est le commerce. Là encore, la France et ses partenaires veulent faire infléchir le président américain et sa ligne protectionniste. Au sommet du G7 à Taormina en Sicile le mois dernier, Washington avait accepté, après d'intenses tractations, d'inclure dans le communiqué final la lutte contre le protectionnisme, mais les Américains pourraient faire machine arrière au G20. Mais toutes ces questions vont être clairement éclipsées aujourd'hui par cette rencontre Trump-Poutine, premier tête-à-tête entre les deux présidents. Jusqu'à présent, ils ne s'étaient parlé qu'au téléphone. Les pourparlers autour de ce face-à-face ont duré des semaines. Et si cette première rencontre revêt ce caractère si particulier, c'est que les relations russo-américaines se sont dégradées à cause des soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine et de leurs désaccords diplomatiques. Américains et Russes soutiennent des camps rivaux dans les conflits ukrainiens et syriens, au cœur certainement de leurs discussions, plus évidemment le dossier nord-coréen. Chaque geste, chaque expression, chaque parole seront donc scrutées avec la plus grande attention. Et ça a débuté ce matin par une poignée de main à l'arrivée des deux hommes, qui n'a pas été immortalisée par les images, mais annoncée par le Kremlin.
Merci beaucoup Cyril Graziani, donc en direct de Hambourg. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Antoine.
Alors les G20 existent depuis maintenant 2008, donc depuis la grande crise financière, en tout cas la dernière crise, et ils sont devenus les cénacles où se gouvernent, ou tentent de se gouverner la mondialisation, mais on le voit bien, le jeu des puissances, le jeu traditionnel des rapports de force reste décisif dans ces réunions.
Oui, et le repli américain depuis l'élection de Donald Trump a déjà fait bouger les lignes. Il n'est qu'à voir l'accord que l'Union européenne s'est empressée de signer avec le Japon hier à la veille de ce G20. Les négociations patinaient depuis plusieurs années. L'élection de Trump leur a donné un coup de fouet. Tokyo s'étant inquiété après le retrait américain du TPP, le partenariat transpacifique, vu comme un contrepoids à la puissance chinoise en Asie. Un partenariat qui favorise le libre-échange et que les 11 autres acteurs, au premier rang desquels le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, entendre réactiver sans les États-Unis. Alors ça, c'est le dernier signe. Mais depuis que Washington résonne du slogan « America first », le pays s'isole sur les plans commerciaux. Donald Trump s'en est pris à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, aux excédents commerciaux allemands sur les voitures, au dumping chinois sur l'acier. L'Europe a répété qu'elle sera vigilante en cas de hausse sur les tarifs douaniers sur l'acier. La Russie, les BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde et Chine, rappellent leur soutien à un commerce mondial ouvert et à l'accord de Paris sur le climat, c'est les deux points dont on parlait à l'instant qui achoppent effectivement. Vladimir Poutine a ajouté sa voix pour critiquer le protectionnisme commercial lui aussi, mais mettant lui en cause les sanctions dont son pays fait l'objet. Alors bien sûr, chacun voit midi à sa porte, mais force est de constater que sur tous ces points, eh bien, on semble avoir les États-Unis d'un côté, le reste du monde de l'autre. On voit comment les positions de la Chine et de la Russie sont proches dans maint domaine de celles de l'Europe sur les plans commerciaux, mais également sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, avec tant de désaccords entre le G19, serait-on tenté de dire, et les États-Unis, la rédaction d'un communiqué final donne des sueurs froides et occupe les nuits des différents négociateurs. Ce n'était pourtant pas l'oncle Sam qui, jusqu'à présent, posait problème dans ces grandes messes internationales.
Voilà, on pourra parler effectivement, Marie-Pierre Véraud, d'un monde à front renversé d'un côté les Chinois et les Russes qui défendent le libre-échange et la liberté donc économique et les Américains qui, eux, veulent y mettre un terme ou en tout cas des limites. Dans les rues de Hambourg, loin du centre des congrès ultra sécurisés, de nombreux heurts ont eu lieu encore ce matin, des manifestants qui incendiaient des voitures, de la police, laquelle a par ailleurs révisé à la hausse le bilan des affrontements de la nuit dernière qui ont fait plus de 100 blessés parmi les forces de l'ordre, 29 personnes interpellées, 15 placées en garde à vue. On salue l'invité de la séquence interview, Karima Deli, bonjour.
Bonjour.
Députée européenne écologiste. Finalement, à Hambourg, vous seriez plutôt avec les dirigeants de la planète ou plutôt dans la rue, vous sortiriez plus à l'aise à quel endroit?
Moi, je serais du côté des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser les pays riches décider sur le dos des citoyens. Ça, c'est la première chose. Qui ne sont pas capables, justement, de donner une feuille de route qui soit sur des défis existentiels.
Les pays riches, mais il y a 20 pays quand même. Là, on a élargi, hein, ça a été élargi. Les BRICS, notamment, on en a parlé.
De plus pour dire, allez, on est intelligent. On a un défi, on a des défis existentiels, que ce soit le réchauffement climatique ou cette question de libre-échange. Est-ce qu'on est capable de donner justement des réponses qui soient à la hauteur des défis ou on reste dans la machine?
Mais est-ce que vous êtes pour le libre-échange, par exemple cet accord entre l'Europe et le Japon, qui a été l'accord politique qui a commencé?
Quels que soient les accords, on l'a vu avec le TAFTA, on l'a vu avec le CETA, la question c'est une question démocratique. Tout se fait sur le dos des citoyens. Et derrière, c'est des questions mais de santé publique. C'est des questions notamment de... On est à les multinationales contre les citoyens. Et bien moi, je le dis, je préfère défendre l'intérêt des citoyens.
Karima Deli, merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous retrouve pour la séquence interview dans quelques minutes. Dans le Sinaï, 26 soldats égyptiens tués ou blessés ce matin dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée contre plusieurs barrages. L'armée égyptienne affirme avoir tué 40 des assaillants lors de ces affrontements avec des extrémistes. Donc dans la région où sévit, on le sait, la branche égyptienne du groupe État islamique. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO déclare la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie zone protégée en tant que site d'une valeur universelle exceptionnelle. Action immédiate de l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UNESCO qui dénonce l'un des moments les plus déshonorants dans l'histoire de l'organisation. C'est la 34e évacuation depuis juin 2015. Plus de 2700 migrants qui étaient installés dans des campements sauvages dans le nord de Paris ont été évacués ce matin vers des structures d'accueil. C'est ce que affirmait la préfecture de l'Île-de-France. Des campements qui s'étaient constitués non loin du centre humanitaire, ouvert en novembre à la porte de la chapelle et qui ne cessaient de grossir. Les conditions sanitaires étaient devenues très dégradées. Opération qui a été menée donc par la préfecture de police, l'Office français d'immigration et d'intégration, la ville de Paris aussi. Plusieurs associations. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour.
Bon, chacun s'accorde à dire que cette évacuation était assez largement justifiée, notamment sur le plan sanitaire. Mais la question, évidemment, de l'accueil reste posée et le nombre de migrants dépasse toujours largement les capacités d'accueil des structures en place.
L'an dernier, 100 000 hommes, femmes et enfants sont arrivés en France. Certes, c'est beaucoup moins que dans d'autres pays européens. Si l'on rapporte au nombre d'habitants, la France arrive ainsi en 20e position. Mais pour ces 100 000 arrivés, donc l'an dernier, seulement 40 000 places dans le dispositif national d'accueil et 30 000 en hébergement d'urgence à la durée de vie variable, les CAO, les centres d'accueil et d'orientation ou encore des places en CHU. Ce sont au moins 30 000 places donc qui manquent rien que pour les nouveaux arrivants, sans compter un problème de répartition sur le territoire. Les migrants viennent à Paris de leur propre chef ou de celui des passeurs et depuis juin 2015, vous le disiez Antoine, on en est à la 34e évacuation dans la capitale. 25 000 personnes sorties de campements indignes sans eau ni sanitaire, des nuits passées à même le sol, été comme hiver, des campements où les migrants ne peuvent compter que sur la débrouille pour manger, l'aide apportée par des riverains et des associations. Associations qui notent aussi un nouvel engorgement migratoire à Paris depuis le démantèlement de la jungle de Calais. Et le problème ne s'arrête pas là. Pour les 36 000 personnes qui ont obtenu la protection de la France l'an dernier, titre de séjour de 10 ans ou protection subsidiaire d'un an renouvelable, pour ces personnes, l'hébergement est également problématique, selon Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile.
36 000 personnes, c'est deux fois plus que deux ans auparavant. Et puis, bien évidemment, ces personnes, elles ont de la famille. Et en 2017, nous poursuivons sur les mêmes bases. Mais aujourd'hui, dans le dispositif d'accueil tel qu'il est formaté, vous n'avez que 2500 places d'hébergement et d'accompagnement. Ce qui fait que vous retrouvez bien souvent dans les dispositifs d'urgence, voire à la rue, un certain nombre de personnes, et c'est le comble, à qui la France a accordé sa protection.
Absurdité, indignité totale pour les associations qui accompagnent les migrants. Et pour finir, il y a l'épineuse question des mouvements secondaires, des personnes qui ont été enregistrées dans le système migratoire en Grèce, en Bulgarie, en Hongrie, en Norvège, en Allemagne, mais qui n'y sont pas restées, notamment parce qu'elles ont été déboutées du droit d'asile. On ne sait pas comment les traiter en France, expliquent les associations. Reconduction à la frontière, mais nombreux sont ceux qui restent malgré tout dans l'Hexagone. 60 à 70% des migrants qui arrivent en Île-de-France ont ainsi été enregistrés dans un autre pays européen. Il faut donc encore des structures d'accueil supplémentaires, disent en cœur la maire de Paris, Anne Hidalgo, le républicain et constructif Pierre-Yves Bournazel, également élu à Paris, ainsi que les associations. Elles demandent au gouvernement d'agir dans quelques jours avec un plan pour les migrants.
Catherine Dutu, merci. Alors que doivent se poursuivre tout l'été, on le sait, les négociations sur la réforme du droit du travail, la situation judiciaire de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pourrait à nouveau être fragilisée. En tout cas, il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte ce matin pour favoritisme, complicité et recel dans l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. C'était en janvier 2016. Enquête qui porte donc sur les conditions dans lesquelles a été organisée cette soirée du 6 janvier à laquelle participait à l'époque le ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. La société chargée de l'organiser, Business France, était dirigée à l'époque par l'actuel ministre du Travail. Elle est suspectée, cette société, de ne pas avoir respecté les règles d'appel d'offres. Et aujourd'hui, donc, si on ne peut pas encore parler d'affaire Pénicaud, il y a bien une affaire Las Vegas qui commence, Nathanaël Charbonnier.
Oui, on peut en effet dire que la tension monte d'un cran, car passer d'une enquête préliminaire à une information judiciaire, cela veut dire que les policiers ont rassemblé des éléments qui permettent de penser que tout dans l'organisation de cette soirée du 6 janvier 2016 n'a pas été fait dans les règles. Cela veut dire aussi que le dossier va se retrouver maintenant dans les mains d'un juge d'instruction. Ce dernier va devoir éplucher et tenter de déterminer s'il y a eu, oui ou non, favoritisme dans ces affaires, en sachant qu'il s'agit d'une soirée à 382 000 euros. Il faut préciser également que le parquet a ouvert une information judiciaire contre X. Nous ne sommes pas encore dans une affaire Pénicaud, vous le disiez, même si tous les regards se tournent vers la ministre du Travail, car je vous le rappelle, c'est elle qui dirigeait la société mise en cause. Des révélations dans la presse ces derniers jours semblent en tout cas fragiliser sa défense, car Muriel Pénicaud aurait eu conscience des irrégularités liées à l'organisation de cette soirée, mais elle aurait choisi de passer outre. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle pour l'exécutif. Il y a quelques jours, le porte-parole du gouvernement demandait à la presse d'arrêter le tir aux pigeons sur les ministres. Il sera plus compliqué d'avoir le même genre de discours avec la justice, qui, tout comme la presse d'ailleurs, fera elle aussi tout simplement son travail.
Nathanaël Charbonnier, merci. Réaction ce matin de la CGT à l'annonce hier par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, du rétablissement d'un jour de carence pour les fonctionnaires dès 2018. Ça consiste donc, en cas d'arrêt maladie, à supprimer la rémunération du premier jour d'absence. Le ministre parle de rétablir l'équité entre le public et le privé. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, disait ce matin regretter que le gouvernement oppose les salariés du public et du privé. On l'écoute.
C'est une mesure absurde qui culpabilise les fonctionnaires. J'ai écouté attentivement le discours du Premier ministre qui a félicité les fonctionnaires pour leur travail, ils le méritent, et puis qui tout de suite derrière, pour les féliciter, leur dit « bah vous ne serez pas augmenté ». Et puis aujourd'hui, on leur dit « bah le jour de, on restaure le jour de carence ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonctionnaires sont des feignants et que quand ils s'arrêtent, c'est pour se reposer. C'est plus globalement le débat qu'il y a aujourd'hui autour de la loi travail. Ceux qui ont des droits sont devenus des privilégiés. Et la norme devrait être ceux qui n'ont pas de droits. il faut remettre les choses à l'endroit.
Philippe Martinez, donc sur LCI ce matin, pour évoquer cette semaine politique qui a débuté avec les discours du président de la République, puis du Premier ministre à l'Assemblée, pour se poursuivre donc avec l'annonce de restrictions budgétaires dans tous les secteurs. Ce sera sans doute pour la semaine prochaine, ces prochaines annonces. On est en ligne avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Frédéric Seix évoquait ce matin dans sa chronique sur France Culture le début de la fin de la magie du « en même temps », cher Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez que la fusée maintenant, Macron, entre dans l'atmosphère et se retrouve un peu confrontée, disons, aux forces de la gravitation économique et sociale ?
Oui, comme toujours, mais un peu plus tôt. Un peu plus tôt, justement, parce que ce nouveau pouvoir compte aller vite et avait effectivement des choses très préparées. Donc on sort de la séquence électorale où le nouveau pouvoir est à voler de victoires en victoires. Et au terme de l'épopée, eh bien, on est confronté à des considérations budgétaires, avec probablement un aspect particulier, c'est que on reste dans une culture qui est finalement très haute fonction publique, très Bercy, où on va passer un coup de rabot sur toute une série de dépenses, ce qui fait que ça mécontente les catégories les unes après les autres, et on est assez loin, si vous voulez, d'un grand coup de balai, par exemple, comme ça avait été escompté durant la campagne.
Alors, résultat de tout ça, à votre avis, à la rentrée, ou ça sera plus manifeste ?
Si on raisonne strictement en termes d'opinion, on a effectivement un Premier ministre et un Président de la République plutôt populaire, mais plutôt moins que d'autres qui, au cours des quinquennats précédents. On est plutôt dans la moyenne basse en termes de popularité, et ça nous rappelle utilement que la base électorale de l'exécutif, c'est les 24% du président de la République au premier tour de la présidentielle, qu'il y a eu une très forte abstention aux législatives, et se crée un élément compliqué à gérer politiquement, c'est la disproportion entre l'étendue des pouvoirs d'Emmanuel Macron et de son mouvement, et une certaine inertie, une certaine perplexité, un certain attentisme, disons, de l'opinion publique.
Jérôme Sainte-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous dans cette édition. On parle du Haut Conseil maintenant à l'égalité hommes-femmes qui formule ce matin 21 recommandations pour améliorer l'accès aux soins de santé des femmes en situation de précarité. Car si l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes, les femmes sont plus exposées que les hommes à certaines pathologies et participent aussi assez peu au dépistage. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes, 85% des chefs de famille monoparentales sont des femmes et la précarité a un impact évidemment sur la santé, sur l'accès aux soins. Le Haut Conseil dénonce une situation d'urgence et remet donc ce rapport à la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa. Bonjour Aurélie Kiffer.
Bonjour.
Première préconisation du Haut Conseil à l'égalité, mieux évaluer les conditions de travail des femmes en situation de précarité.
Femmes de ménage, aides à domicile, caissières ne sont pas considérées comme des métiers pénibles, pourtant ils exposent les femmes à certains risques. Pour le Haut Conseil à l'égalité, il faut revoir les critères de pénibilité, prendre en compte la station debout, la manutention de charges peu importantes mais répétées, le danger des produits ménagers ou la multiplication des trajets pour des interventions à domicile. Il propose aussi de reconnaître les troubles de santé mentale comme la dépression ou l'épuisement parmi les maladies professionnelles. Autre axe important, l'accès aux soins. Les femmes représentent 64% des personnes qui reportent des soins ou y renoncent. Elles ne sollicitent pas les aides financières trop complexes, ne trouvent pas toujours le temps de consulter et les femmes en situation de précarité participent moins que les autres aux campagnes de dépistage du cancer du sein et de l'utérus. Parmi les recommandations, il y a donc une simplification des dispositifs, avec par exemple la fusion de l'aide médicale d'État, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé et de la couverture maladie universelle complémentaire. Enfin, le Haut Conseil à l'égalité pointe, je cite, « l'androcentrisme de la société et de la médecine ». Je vous donne une illustration pour que vous puissiez mieux comprendre, Antoine. 43% des accidents cardiaques sont fatals chez les hommes, 55% chez les femmes. La différence s'explique par une prise en charge plus tardive, tout simplement parce qu'on connaît moins les symptômes propres aux femmes. Il faut donc compléter la formation des professionnels de santé pour qu'ils prennent mieux en compte les spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements. Il faudrait aussi les sensibiliser davantage aux effets de la précarité, explique le HCE. La mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est multipliée par 3 pour les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées.
Voilà. Androcentrisme, ça c'est l'Académie à voter pour ce mot, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Eric Kiffer, merci en tout cas. Karim Adeli, on revient vers vous pour la séquence interview. Un tout petit mot là-dessus peut-être, puisque c'est un sujet aussi qui concerne tout le monde, les hommes et les femmes, mais peut-être que vous avez quelque chose à dire particulièrement.
Enfin, on aborde ce sujet-là et maintenant il faut des mesures concrètes et aussi des sanctions.
parce que en règle générale, lorsque des femmes sont en situation de précarité, c'est que l'égalité salariale n'est toujours pas atteinte ou on n'est pas dans la question de l'égalité des droits. Et moi, je pense que sur cette question d'égalité des droits, il faut en faire une priorité. Parfois, il faut sanctionner des entreprises qui ne respectent pas, justement, les droits des femmes.
Question maintenant de Stéphane Robert.
Karima Delli, vous êtes certes députée européenne, mais aussi présidente de la commission transport depuis quelques mois au Parlement européen. On va y revenir un tout petit peu plus tard.
Oui.
Dans un premier temps, le 9 mai, dans une tribune publiée par le JDD, le journal du dimanche, vous félicitiez Emmanuel Macron pour son élection. Oui. Vous actiez aussi la fin du bipartisme à l'Assemblée, ni rose ni bleu mais verte, vous disiez. Et vous encouragez Macron à devenir un président écologiste et européen. Est-ce qu'à votre avis, il est en passe d'y parvenir?
Il a plutôt intérêt. Il a plutôt intérêt parce qu'on ne peut pas faire la morale à Donald Trump et ne pas être exemplaire. Donc, M. Macron doit être exemplaire en termes d'écologie et doit devenir le leader européen. Il doit emmener cette machine européenne vers plus d'écologie et plus d'Europe.
C'est ce qu'il fait pour l'instant. Vous avez l'impression qu'il prend le chemin de ça?
Pour l'instant, on est sur une bonne voie au niveau européen. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il faut des mesures concrètes et pas de la poudre de perlapapin.
Le plan Hulot vous convient?
Aujourd'hui, la question de Hulot, c'est que tout le monde est d'accord. Tout le monde est sur le même diagnostic, mais il nous faut des mesures concrètes.
Il a annoncé tout un tas de mesures, fin des voitures thermiques d'ici 2040, fiscalité essence et diesel alignée d'ici la fin du quinquennat, neutralité carbone à l'horizon 2050, fin des centrales à charbon d'ici 2022. Enfin, il y a plein de choses concrètes comme ça, c'est pas
les mesures concrètes. C'est concret dans les objectifs 2040-2050, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Vous parliez de la sortie, aucune voiture ne sortira des usines, nous n'aurons plus de voitures diesel, de voitures électriques d'ici 2040. La première étape, et je peux vous le dire puisque j'ai levé le lièvre sur le Dieselgate, c'est qu'aujourd'hui toutes les voitures ne respectent déjà pas les normes européennes. Alors comment on va faire d'ici 2040? Alors moi j'invite le gouvernement à déjà faire en sorte que nos constructeurs respectent les normes européennes d'émissions de CO2 et de NOx. Pourquoi? Parce que derrière, c'est une question pour le climat, mais c'est aussi une question de santé publique. Lorsqu'on sait que depuis 2012, l'OMS dit la France, c'est 40 000 morts prématurées à cause notamment du diesel.
Donc ce que vous dites, c'est que Nicolas Hulot, pour l'instant, n'est pas suffisamment dans le concret.
Ah non, mais il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde le dit. Donc on va l'accompagner. Moi, je suis très bonne volonté, je suis très contente qu'on mette en place des assises de la mobilité en septembre. Moi, je suis rapporteur de la mobilité urbaine durable. Les solutions, elles existent. Maintenant, il faut les mettre en œuvre et bien sûr, parler de la question du financement.
Mais la question au niveau européen, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne, cette manière de voir? Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que les intérêts, malgré tout, économiques, industriels, l'emportent, puisque vous êtes bien placé pour le savoir, vous êtes au Parlement européen?
Écoutez, la dernière affaire qui date d'il y a quelques jours, qui s'appelle les perturbateurs endocriniens, je pensais que la France, justement, qui avait résisté depuis quelques années à dire non, la définition des perturbateurs endocriniens présentée par la Commission ne nous va pas, et malheureusement, la France, et moi je suis très déçue de Nicolas Hulot sur cette position, la France a eu une position de dire oui, on la vote.
Vous pouvez préciser un peu techniquement ce
alors techniquement, mes chers auditeurs, c'est très simple. C'est que les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances très dangereuses, qu'on appelle aussi pesticides, et qu'on les retrouve notamment partout, dans les jouets, on peut les retrouver dans des produits de douche, etc.
Je parlais de la définition, parce que bon, ça, on connaît à peu près. Quel était le problème précisément? Parce que j'ai l'impression qu'il s'agit de prouver aussi que les produits sont dangereux, ce qui n'est pas évident.
En fait, au niveau européen, la définition devait inclure, c'est par catégorie, on a des perturbateurs endocriniens avérés, présumés, suspectés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette distinction dans la définition qui fait pour interdire un perturbateur endocrinien.
Il faut que ce soit avéré.
Et il faut, aujourd'hui, il faut avancer toutes les preuves pour dire que oui, on ne peut pas le mettre sur le marché. Mais il est où le principe de précaution? On va se retrouver dans des scandales comme l'amiante ou comme le diesel. Donc moi je dis stop. Un moment, c'est pas les lobbies qui font la loi et là, c'est l'industrie allemande qui a gagné l'industrie chimique, qui a gagné. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi le Parlement européen, nouveaux députés, eh ben, fait un recours pour casser cette décision. Et j'appelle tous les citoyens qui m'écoutent ce soir, ce matin plutôt.
Voilà, pour... Il est 12h54.
Oui, voilà. Pour on réellement faire en sorte qu'on casse cette décision.
Stéphane Robert,
alors, question pour en une minute. Vous êtes, depuis quelques mois, présidente donc, de la commission transport au Parlement européen. Qu'est-ce que ça vous apporte et c'est quoi les deux, trois gros dossiers qui vous attendent là?
Eh ben, le gros dossier qui arrive, c'est ce qu'on appelle le paquet mobilité. Le paquet mobilité viendra régler le poison européen qu'on appelle le dumping social, notamment avec cette directive des travailleurs détachés. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que la question du contrôle et la question de la protection des salariés, travail égal, salaire égal, soient réellement dans notre texte et donc renforcer les contrôles. Et ensuite, on a tout le volet de la voiture connectée qui arrive, hein, on va le réglementer, et surtout le défi environnemental. Aujourd'hui, on parle plus d'écotaxe en France, hein, qui a été le dossier explosif. Et ben nous, on va parler d'eurovignette qu'on imposera au niveau européen sur les poids lourds.
Et alors, qu'est-ce que ça vous donne comme moyen d'agir d'être président de la Commission?
On a dépassé la minute, hein, donc rapidement.
Très rapidement, c'est-à-dire que je peux mettre à l'ordre du jour des problématiques qui sont concrètes pour le destin des citoyens, mais surtout pour réorienter l'Europe vers des objectifs très concrets. Voilà.
Karima Deli, merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir accepté d'être dans ce studio. Ce midi, la météo avec un temps toujours très chaud sur les deux tiers sud du pays. Il y a 8 départements du centre-est de la France qui sont placés en alerte orange canicule. Température donc comprise entre 21 et 27 près de la Manche, 25 à 30 de la Bretagne aux frontières du Nord ainsi que sur les côtes atlantiques et languedociennes. Et jusqu'à 30 à 35 degrés sur le reste de la moitié nord, 33 à 37 même sur la moitié sud. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.